On va se gêner sur Radio Campus Bordeaux 88.1, 14h, 15h. Alors cliché ou réalité ?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Bordeaux dans votre toute nouvelle émission On va se gêner. Je m'appelle Chloé, nous sommes ensemble jusqu'à 15h et pour vous accompagner cet après-midi, Lison, Laura, Lucille et Elorie sont également avec nous. Bonjour les filles.
Bonjour. Bonjour.
Alors prête pour cette grande première ?
Eh bien écoute, un peu stressée mais ça va le faire.
Allez, tout va bien se passer. Allez, je vous propose d'attaquer tout de suite et de rentrer dans le vif du sujet. Alors Lison, je te propose de nous dire un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui.
Eh bien écoute Chloé, aujourd'hui on va parler de nous. Alors pas de nous personnellement, hein, bien sûr, bien que nos vies soient très palpitantes, est toutes d'accord là-dessus.
C'est bien connu.
Mais plutôt des jeunes de notre génération et de la manière surtout dont ils sont représentés au travail. Donc avec leurs défauts, leurs compétences, leurs aspirations, un petit peu tout ça quoi.
Alors effectivement, vous allez le voir, les idées reçues sur cette génération sont nombreuses et il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Heureusement, notre équipe de choc est partie enquêter sur le terrain et nous vous livrons aujourd'hui le fruit de leurs investigations. Mais pour commencer et ne perdre personne en cours de route, tâchons de définir ensemble ce qu'est la génération Y. Très simplement, si vous êtes né entre les années 80 et le milieu des années 90, alors vous êtes l'un des heureux membres de cette cohorte que l'on appelle Génération Y. Merci Monique Dagneau, sociologue au CNRS, pour cette définition essentielle à la poursuite de notre émission. Principale distinction, c'est une génération qui serait a priori hyper connectée, puisque née avec l'expansion sans précédent du digital et des nouvelles technologies, nous le verrons tout à l'heure avec Lison notamment, et dont l'ambition majeure serait de trouver l'équilibre parfait entre vie professionnelle et vie personnelle. Ajoutez à cela beaucoup de mythes, comme le souligne Ingrid Piron, consultante en évolution professionnelle, les Y seraient inadaptés au monde de l'entreprise, impolis, voire carrément zappeurs, et j'ai envie de vous dire, pour les Y que nous sommes, ça fait plaisir. Mais alors qu'en est-il réellement ? Que vous soyez étudiant, salarié ou jeune diplômé, nous sommes allés à votre rencontre pour tenter de répondre à cette question. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet avec Elorie. Cliché numéro 1, les Y auraient un gros problème avec les horaires de travail. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Elorie ?
Eh oui, bonjour à tous. Alors moi, j'ai décidé de vous parler des horaires de travail classiques qui, a priori, poseraient problème aux générations Y et Z. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça ? C'est parce que récemment, j'ai lu un article de Région Job qui a été beaucoup tweeté et retweeté. Il s'appelle « La journée des générations Y et Z va vous étonner ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais cet article s'appuie sur une étude de l'agence MRY qui parle de « micro-leisure », traduit, qu'on peut traduire par « micro-pause ».
Et on notera ton magnifique accent british.
Merci Chloé.
Non, mais ça me fait plaisir.
Et donc, selon l'auteur de l'article, cette micro-leisure permet de mieux comprendre comment les technologies impactent le monde de l'entreprise et modifient notre rapport au temps de travail. En gros, ce concept traduit la fin de la journée de travail avec les horaires classiques 9h-18h. Et dans cet article, quelque chose qui m'a beaucoup choquée, c'est qu'on voit deux infographies, une qui illustre le temps de travail des générations X et Baby Boom, qui est de 9h à 12h, puis de 13h à 18h non-stop, alors que la journée de travail des générations Y et Z est remplie de micro-pauses, mais ils continuent à travailler après 18h. Alors moi, je voulais savoir, les filles, qu'est-ce que vous en pensiez de ça, et est-ce que vous pensez vraiment que les Y travaillent comme ça ? Et est-ce que pour vous, il faut changer les horaires classiques de travail 9h-18h ?
Eh bien écoute, Elorie, pour ma part, je suis plutôt d'accord avec l'article, dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler d'horaires classiques. On a besoin de micro-coupures, parce qu'on effectue des journées qui sont plus longues, avec des heures de travail plus étalées dans la journée. Et du coup, cela implique, pour tenir toute la journée, de faire ces micro-pauses pour aérer notre petit cerveau. Après, en revanche, je pense pas que ce soit une caractéristique à mettre en lien avec notre génération spécifiquement. Je sais pas ce que vous en pensez.
Alors moi, Laura, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ce n'est pas du tout une question de génération. Je pense que c'est plutôt en raison de l'arrivée des nouvelles technologies. Je pense qu'il est beaucoup plus difficile de couper après le travail, tout simplement parce que quand on reçoit un email, que ce soit au dîner, ben, on va regarder. Du coup, je pense que le risque, c'est de ne pas prendre en compte l'arrivée des nouvelles technologies et de faire des burn-out parce qu'il n'y a plus de coupure entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
C'est vrai, Lucille, qu'on entend de plus en plus souvent parler de burn-out au travail, et c'est vrai que ça pourrait être lié effectivement à avec ces nouvelles technologies, le fait qu'on puisse plus couper complètement du travail entre travail, vie et vie privée, on n'arrive plus à vraiment couper. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est vrai qu'on fait pas mal de micro-pauses, mais pour moi, les horaires de travail, du coup, 9h-18h, ça permet quand même de garder un cadre et d'essayer de couper au maximum, du coup, entre vie privée et vie professionnelle. Parce que si, pour moi, on enlève ces horaires classiques, on va se mettre à travailler n'importe quand, et puis ben, on n'aura plus de vie privée, tout sera mélangé. Je suis pas sûre que ce soit la bonne méthode. À la fac, c'est vrai qu'on est habitué à faire ça, on travaille un peu n'importe quand pour terminer des dossiers, des projets ou autre. Mais dans le monde du travail, si on veut avoir une vie privée, je pense que c'est quand même important de conserver ces horaires un peu classiques. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Lison.
Et moi, je suis d'accord avec toi, Laurie. Après, je voulais revenir surtout sur les micro-pauses là, dont tu parlais. Puisque moi, quand on parle de micro-pauses, j'ai tendance à penser forcément aux réseaux sociaux, donc Facebook, ouais. Twitter, puisqu'effectivement, on va aller sur Facebook et sur Twitter pendant nos temps de travail. Après, je trouve que ces outils sont encore vachement diabolisés. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais.
Mais tout de suite, quand on va sur Facebook ou sur Twitter ou même sur d'autres réseaux sociaux, c'est que voilà, on se divertit, on n'est pas en train de travailler, c'est complètement du loisir. Alors que pas forcément, je pense notamment au métier de community manager. Ben, de fait, il est forcément sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Et donc, c'est normal, c'est du temps vraiment de travail. Et qu'on fasse de la veille aussi sur un sujet particulier pour avoir, je sais pas moi, des idées de projet, pour avoir, faire un peu de recherche sur un sujet particulier, c'est du temps de travail. Donc, il faut, je pense aussi, arrêter de considérer les réseaux sociaux comme le mal incarné, comme forcément la distraction absolue, et voir que ça peut avoir un vrai potentiel de travail.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi, et je voulais savoir, tu nous dis donc que pour toi les réseaux sociaux sont diabolisés, tout ça c'est mal vu quand on y va au travail. Est-ce que tu as déjà rencontré ça dans un de tes stages ou...
Alors ça dépend vraiment des structures, je pense qu'il y a encore des structures où effectivement il y a cette idée de réseaux sociaux égale loisir égale temps de travail perdu finalement. Donc j'ai eu, oui effectivement j'étais en stage dans des structures où il y a carrément Facebook ou Twitter qui étaient bloqués, donc on ne pouvait pas du tout y avoir accès. Donc il y avait effectivement cette notion d'interdit, de si j'y vais c'est un peu je brave l'interdit. Donc il y avait quand même ce caractère-là du fait que voilà, les réseaux sociaux n'étaient pas autorisés. Et après il y a d'autres structures au contraire où c'est pas du tout un problème. Et je pense que c'est les structures qui ont le plus intégré que les réseaux sociaux faisaient partie intégrante d'un métier ou d'une manière de travailler. Et je vois dans le stage que j'ai effectué dernièrement, oui, dans lequel je travaille encore, il n'y a pas du tout ce problème-là en fait. C'est même normal d'être sur Facebook, d'être sur Twitter, parce qu'on travaille aussi sur le public étudiant. Donc ça nous permet d'avoir des données sur des modes de vie, sur des manières d'être, etc. Et c'est vraiment super important, et c'est pas du tout vu comme tu fous rien là parce que t'es sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses. Après effectivement, de là à passer toute la journée sur Twitter et simplement liker 25 photos, il faut faire la part des choses.
Ok, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que l'article le souligne aussi qu'il faut, c'est pas la bonne solution de priver complètement les gens des réseaux sociaux. Chloé,
oui, et puis bon, en plus, on sait très bien que voilà, si on dit c'est interdit, tout de suite, les gens, bon, ben voilà, l'interdit, ça attire. Alors déjà que d'ordinaire, maintenant, c'est vrai, c'est un réflexe qu'on a. On sort le téléphone, on se connecte, on va regarder si on a une nouvelle notif, si on a un nouveau tweet. Déjà que c'était une habitude. Alors si en plus c'est un interdit et on peut se la jouer un peu rebelle, genre oui, j'ai été checker mon profil aujourd'hui. Bon, après, je ne suis pas convaincue que, voilà, bloquer des accès, de toute façon, oui, on va bloquer l'accès sur le réseau de l'entreprise, mais tout le monde est équipé de tablettes, de téléphones. Enfin,
c'est ça.
Pour moi, ça ne représente pas une solution. Au-delà de ça, j'ai trouvé l'article bon, très intéressant, certes, mais peut-être aussi un petit peu trop axé, je dirais, contre cette population, cette génération Y et également Z, puisqu'elle fait partie un petit peu de leur ligne de mire. Je ne suis pas convaincue que ce soit propre vraiment à cette génération, mais que ce soit plutôt, d'une part, le fait d'un cycle de vie qui est la jeunesse. Et au-delà de ça, on le sait très bien, aujourd'hui, tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Plusieurs millions, milliards de personnes se connectent tous les jours. Donc je ne suis pas convaincue que ce soit exclusivement les jeunes. On le sait très bien, maintenant, papy et mamie sont aussi sur Facebook. Donc ce que je veux dire par là, c'est que voilà, toutes les tranches d'âge sont concernées et que voilà, tout le monde peut être amené dans son travail, dans son milieu professionnel, à se connecter dans la journée sans que ça influe particulièrement sur la qualité du travail produit.
Ouais, à partir du moment où je pensais ça, hein, comme tu disais Chloé, on autorise les réseaux sociaux. Il n'y a pas que nous qui allons aller sur ces réseaux. Hein, c'est ouvert à tous, donc tout le monde va y aller. Peut-être pas pour les mêmes choses, pour les mêmes usages, mais en tout cas, c'est un fait, je pense.
J'ai un autre exemple de micro-coupure qui me vient, là, notamment la fameuse pause clope. C'est quelque chose qui est plutôt courant dans les entreprises et pourtant ça n'a rien à voir avec la génération. Pourtant, c'est une micro-coupure.
Et d'ailleurs, on peut en profiter pour rappeler que fumer est très dangereux pour la santé, donc éviter ces fameuses micro-pauses et peut-être privilégier finalement l'accès aux réseaux sociaux qui sera moins nocif pour votre santé.
Tout à fait. Alors, pour conclure, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, par contre, Chloé, je vais revenir sur ce que tu as dit sur l'article en disant qu'on nous diabolise un petit peu les générations Y et Z. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas très sympas avec nous dans l'article, mais je trouve je tiens à signaler qu'ils finissent quand même sur une bonne note, plutôt parce qu'ils disent en fait que ce n'est pas que les générations, que les jeunes, donc de la génération Y et Z, qui aspirent à une meilleure articulation de la vie privée, de la vie professionnelle, et qui sont confrontés à un nouveau rapport au temps au travail, mais bien toutes les générations, et ils précisent bien qu'il faut qu'on s'adapte tous. Donc voilà, au final, on est un peu partagé sur cette idée d'horaire de travail bien déterminé, mais en tout cas, on est d'accord sur le fait qu'il faut vraiment quand même des pauses et savoir couper pour être plus efficace tout simplement au travail.
Mais merci beaucoup Elorie pour toutes ces informations. Alors n'hésitez surtout pas à nous donner votre avis sur notre page Facebook ou sur Twitter. Vous le savez, on est présente sur les réseaux sociaux. On va se gêner, c'est votre radio. Vous le savez, on vous donne la parole. Alors n'hésitez pas, dites-nous tout. Et je vous propose de passer tout de suite à la deuxième partie d'émission avec Lison. Alors parmi les grands stéréotypes qui caractérisent la génération Y, je dois dire que mon préféré, c'est quand même celui qui consiste à dire que nous, Y, serions tous des sortes de Mark Zuckerberg en devenir et qu'il nous serait impossible de vivre ne serait-ce qu'une minute sans nous passer des réseaux sociaux. Alors on l'a notamment vu avec cette histoire de micro-pause. Mais alors qu'en est-il réellement? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors Lison, de quoi tu vas nous parler plus précisément dans ce rapport des Y au travail et aux technologies également?
Alors moi Chloé, je vais me pencher sur le cas des digital natives, les fameux. Qu'est-ce qui se cache derrière cette chose? Vous le savez peut-être, mais vous êtes en communication, donc j'ai envie de dire c'est plutôt normal, mais c'est pas le cas de tous.
Et oui, et je sens que tu vas nous placer un petit point historique, Lison, je sens qu'il arrive.
Patience Chloé, patience, il arrive. C'est vrai que c'est un concept qui est quand même très en vogue et qui a fait couler des litres et des litres d'encre dans les médias. Mais avant de vous en dire plus, je laisse d'ores et déjà la parole aux auditeurs pour savoir si quelques-uns d'entre eux ont une idée du sens de ce terme anglais.
Digital native. Ça me dit rien du tout.
Non, je vois pas du tout ce que c'est.
C'est quelqu'un qui est né, ou du moins qui a connu les nouvelles technologies dès le plus jeune âge. Donc ça correspond à notre tranche d'âge, entre 20 et 30 ans. Quelqu'un qui est très à l'aise et très, avec ça et très connecté au quotidien.
Intuitivement, je dirais que c'est les jeunes qui sont habitués à utiliser tout ce qui est outils numériques, ordinateurs, internet, des choses comme ça.
Non, je sais pas du tout, ouais.
Ça me parle pas du tout.
Et la génération qui est vraiment connectée avec les réseaux sociaux et tout ça.
Non. Je suis peut-être profane, mais non.
Ça me dit rien du tout, ça me parle pas, je suis peut-être profane, mais je vois pas. Bref, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une évidence pour tous. Alors, difficile de croire, suite à ces témoignages, que ce terme du professeur américain Mark Prensky nous désigne, nous, jeunes de la génération Y. Alors nous y voilà, Chloé, l'heure du point tant attendu a sonné.
Je me languis.
Je le savais. Les digital natives, ou sans culottes de la révolution numérique, comme se plaît à nous nommer Manuel Valls, symbolisent une rupture significative dans la manière d'apprendre et de communiquer.
Alors en gros, le passage au numérique et le développement des nouvelles technologies auraient chamboulé notre génération.
Ben, c'est un peu ça, Chloé, au point de faire de nous ce qu'on appelle des enfants du digital. Donc il faut quand même rappeler qu'il y a 30 ans, les premiers ordinateurs domestiques, soit The Technology, franchissaient le pas des foyers français.
Donc grosse révolution en perspective.
Exactement. Et bam, 10 ans plus tard, c'est reparti, puisque l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui se pointe dans nos chaumières. Entre-temps, les téléphones portables se vendent comme des petits pains.
Ouais, enfin attention, Lison, on ne parle pas de smartphone, faut pas déconner non plus.
Bien sûr, Chloé, mais quand même. Et puis, on peut voir qu'un réseau social du doux nom de Facebook fait son apparition en 2004, comptant en mars 2015 plus de 1,44 milliard d'utilisateurs selon le journal du net.
Et c'est pas rien. Et effectivement, on peut l'admettre, il y a eu quelques petits changements entre-temps.
C'est peu de le dire, hein. Nous, jeunes d'aujourd'hui, nés entre les années 80 et les années 2000, aurions grandi avec cette évolution. Et il y a un avant ce phénomène avec ce qu'on appelle les digital migrants, donc en gros nos aînés, et un après avec ce qu'on nomme la génération Z, donc née à partir des années 2000, avec la technologie telle qu'elle est aujourd'hui. Donc les filles, si je vous parle du modem, du ronron que faisait la ligne téléphonique quand on tentait d'avoir internet et des longues minutes que prenait le temps de chargement d'une simple petite page. Ça devrait effectivement vous rappeler quelques émotions.
Effectivement.
Ah, de bons souvenirs, effectivement. Enfin bon, on est d'accord sur ça, mais de là à dire, je cite, que nous sommes nés avec un ordinateur dans les mains, que nous manions smartphones et tablettes avec beaucoup d'aisance, ou encore, attention, là c'est un niveau au-dessus, que nous serions tels des geeks autistes scotchés à leur écran de smartphone.
C'est beau.
Et attends, c'est pas fini, Chloé, qui chatte et tweet à longueur de journée.
C'est bien connu, oui.
Moi, perso, j'ai comme l'impression qu'il y a un fossé.
Non, il faut pas pousser mémé dans les orties.
Je suis pas une accro au numérique, donc je me reconnais pas spécialement dedans. C'est plus comme un accessoire que comme utile vraiment à ma vie. Oui, parce que quand je compare aux pratiques de mes parents ou grands-parents face au numérique, je sais que je suis bien plus initiée, ou que j'ai été initiée bien plus jeune du moins. Peut-être que je fais plus appel aux nouvelles technologies dans certaines situations dans lesquelles eux penseraient à chercher l'information ailleurs par exemple.
Je pense de manière générale être bien familiarisée avec le fonctionnement de l'informatique. J'ai acquis une sorte de logique depuis le temps, étant donné que je me suis familiarisé très tôt avec l'outil informatique. Je sais où aller chercher les informations, je suis familiarisé avec l'utilisation de plusieurs réseaux sociaux.
On va dire plus à partir du collège, mais avant le collège, non.
Moi, je suis un peu hors technologie, donc j'ai pas grandi avec la technologie, je suis pas du tout familiarisé avec la technologie.
Niveau réseaux sociaux, moi, pas du tout. Mais niveau digital, ouais. La musique, travaille la musique, les vidéos, le téléphone. Ouais. Mais sinon pas trop réseau, non. Pas trop de réseaux sociaux.
Alors là, incroyable les filles.
Ça, c'est une info.
C'est une info exclusive, on est d'accord. Oui. Hein, tous les jeunes ne seraient pas forcément accros aux nouvelles technologies. Incroyable. Et oui, bien sûr, vous en doutez, quand on parle de génération, eh ben, on a tendance à mettre tout le monde dans le même panier.
C'est sûr que bon, même si des faits marquants peuvent rassembler des individus nés au cours d'une même période, après voilà, ça reste des individus différents avec une histoire particulière. Chacun ressent les choses différemment.
Exact. Perso, moi j'ai eu un ordinateur qu'une fois arrivé à l'université et je pense pas être la seule.
Et tu t'en es bien sortie pourtant sans ça.
Je suis sortie, je suis ici avec vous. D'ailleurs, dans le micro-trottoir, je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit que certains évoquent leur premier contact avec le numérique lors des fameux et regrettés cours de techno enseignés au collège, alors que d'autres parlent d'un contact précoce dès l'arrivée des nouvelles technologies. Donc il y a une espèce de fracture numérique qui existe entre ces individus qui appartiennent pourtant à la même génération. Alors plusieurs explications à ça. Déjà, si nos parents habitaient dans une zone non dégroupée, sans fibre ou autre, on pouvait pas avoir internet.
Oui, là déjà on est mal parti. Hein.
Du coup c'était compliqué quoi.
Sans compter, disons que c'est vrai que si on n'avait pas d'infrastructure à proximité pour avoir accès au net, comme la bibliothèque, les cybercafés, bah forcément ça aidait pas.
Puis il n'y a pas que ça aussi, il y a d'autres facteurs parce que, qui expliquent le fait qu'il y ait une fracture numérique, puisque avoir un ordi à soi et avoir un ordi en commun pour toute la famille, ce n'est pas du tout la même chose, enfin, dans le sens où on ne l'utilisera pas de la même façon. Donc,
et puis c'est la guerre, attends, il faut que tu te battes pour avoir l'ordi avec ta femme ou ta sœur.
C'est ça.
Et puis il y a aussi des situations bien particulières auxquelles on ne pense pas forcément, notamment les personnes qui sont en prison ou qui sont à la rue. Pour certains, ils n'ont pas pu être en contact avec le monde numérique.
Et ouais, c'est exactement ça les filles, on est d'accord. Et on peut voir qu'il y a des différences de fréquentation aussi des outils numériques. Par exemple, certains vont passer 4, 5, 6, voire 7 heures sur leur PC et d'autres simplement 1 à 2 heures. Donc ça dépend vachement des filières et aussi des contraintes du métier. Pareil, hein, qu'on ait une connexion pourrie dans un vieux logement miteux ou qu'on capte 50 réseaux Wi-Fi aux alentours, ça va quand même légèrement influer sur le temps qu'on passe sur l'ordi. Donc digital natives, c'est vite dit. Et puis, quelles compétences on a vraiment, nous ? Est-ce que cette supposée maîtrise du numérique, c'est un truc qu'on veut mettre en avant quand on cherche un boulot ou pas du tout ?
Non, pas spécialement. Ça semble évident, mais non, pas particulièrement. Non plus, à part quelques logiciels type, plus spécifiques comme SolidWorks, AutoCAD, donc là pour faire des dessins. Sinon après, pour le coup, tout ce qui est Word, Excel, enfin Microsoft Office, je pense ouais, c'est normal pour tout le monde. Donc,
Pour les boss, pour les patrons, je pense que c'est acquis ouais, qu'on maîtrise ces outils-là.
C'est quelque chose que je mentionne mais que je mets pas en avant parce que c'est pas un critère très très important pour moi pour trouver un travail, de travailler sur le numérique, etc. J'ai d'autres attentes en fait.
Oui, c'est écrit sur mon CV que je sais faire les logiciels que je sais utiliser et tout. Après, je pense que je maîtrise ce que tout le monde maîtrise, quoi. J'ai pas des compétences plus que ça. Enfin, voilà, je suis envoyé des textos, aller sur Facebook, Instagram, Pinterest et tout, mais sinon...
Non, parce que je pense que tout le monde a ses compétences un peu, que c'est pas vraiment un atout d'avoir des compétences en informatique, parce que la plupart de notre génération a ses compétences. C'est pas qu'ils cherchent des gens avec ses compétences, mais c'est juste qu'ils ne veulent pas des gens qui n'ont pas ses compétences.
Je maîtrise ce que tout le monde maîtrise, mais bon, on peut se poser la question suivante, justement, eh ben, qu'est-ce qu'on maîtrise, nous, Y ? Alors, une fois n'est pas coutume, on peut parler de fracture numérique aussi dans ce cas, au sens où on a tendance à confondre l'exposition aux technologies et la maîtrise numérique. Qui parmi vous, les filles, avouez-le, n'a jamais été victime de cette scène où votre employeur ou votre collègue vous demande de développer une appli mobile, de réparer l'ordi qui rame, de gérer les réseaux sociaux ou, comble de la folie, de développer un site internet à vous tout seul? Alors là, on a deux cas de figure. T'as ceux qui vont se dire « Oh super, c'est totalement dans mes cordes !» Et t'as les autres, et là je te rassure, c'est la majorité, qui vont commencer à avoir des palpitations, sentir le stress les envahir avant de se dire « Eh merde, putain, je suis même pas sur Twitter et j'ai pas de smartphone !»
Ah mon Dieu, solitude quand tu nous tiens.
Ah, c'est peu de le dire, Chloé. Car on a avant tout des compétences de mode de vie, comme écrire des SMS, jouer à des jeux vidéo ou regarder des vidéos, donc pas vraiment raccord avec ce qui est attendu sur le marché du travail, faut bien le dire.
Alors après, si je comprends bien, voilà, poster un commentaire sur Facebook, aller sur YouTube, checker nos mails, bon, tout ça, ça nous parle. Mais alors après, dès qu'on rentre dans tout ce qui est Edge Rank, algorithme, display ou Facebook Ads, tout ça, ça devient un petit peu du chinois. Là, on s'y perd.
C'est un peu ça, ouais. Alors encore une fois, c'est le cas pour certains d'entre nous, notamment ceux qui ne sont pas forcément issus de filières spécialisées. Un prof de master a très bien résumé le problème en nous disant « Vous ne savez pas vraiment vous servir d'un ordinateur. »
Merci Sylvain.
Et oui, et c'est vrai, mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est si grave ?
Bah après, voilà, hein, on le sait, toutes ces technologies, elles sont vouées à évoluer dans le temps, et nous avec, donc forcément, on apprendra constamment, il faudra toujours s'adapter.
Mais c'est clair. Et puis, on nous colle cette étiquette de digital natives, mais au fond, certains s'en contrebalancent de ne pas maîtriser complètement le numérique. Il faut le dire, il faut le dire.
Mais disons-le.
Disons-le. Tout dépend de ce qu'on cherche professionnellement, comme le souligne très bien Irène, 23 ans, qui est avant tout intéressée par le domaine de la culture.
C'est vrai que bon, voilà, nous, les médias, ils veulent absolument qu'on maîtrise le digital. Certains patrons attendent qu'on révolutionne leur entreprise en 2-3 coups de clavier souris. Fin...
C'est ça. Mais bon, au final, et nous, dans tout ça, quoi. On en vient à gommer nos aspirations, nos attentes, pour se plier à tout ce beau monde.
Bon. C'est clair. Puis bon, en plus, voilà, après, chaque personne a mettre des compétences très spécifiques en avant, en rapport avec son projet pro. Les étudiants en architecture, par exemple, eux, ils vont plutôt valoriser des logiciels très spécifiques, là où des étudiants en graphisme vont montrer leurs compétences concernant des logiciels comme Photoshop, InDesign ou Illustrator.
C'est ça, donc au final on peut dire chacun son truc, dédramatisons, et puis si vous savez pas quelque chose, c'est pas grave, cherchez un tuto sur YouTube, vous aurez forcément une réponse.
Ah, que serait ma vie sans YouTube ? En tout cas, merci beaucoup Lison pour toutes ces informations, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous propose de nous retrouver tout de suite, après une courte petite intervention musicale, et je vous propose d'écouter... Gordon, Arsenal Away. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Wait for half-time results. You can call me, you can call me. You can call me up when you need a friend. When you miss the touch of a helping hand. All the things you need, they don't understand. You can call me, you can call me.
The things you need will match the things.
On va se gêner sur Radio Campus Bordeaux 88.1, 14h, 15h. Alors cliché ou réalité ?
Et on se retrouve dans les studios de Radio Campus Bordeaux pour notre grande première dans On va se gêner. Je vous le rappelle, cette émission est proposée et présentée par le Master Communication et Génération de Bordeaux-Montaigne. J'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux. Je vous le rappelle, nous avons une page Facebook et un compte Twitter. Et on se retrouve tout de suite donc avec Laura. Laura qui va nous parler du rapport des Y à l'emploi. Laura, on t'écoute.
Oui, tout à fait, Chloé. Donc aujourd'hui, puisqu'on parle de travail, je vous propose d'aborder une question importante. Que recherchons-nous vraiment, nous, la génération Y, dans le travail ? On parle souvent des profils recherchés par nos employeurs, de la préparation des entretiens qui nous donnent la chair de poule. Eh bien aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vous. Quels sont vos critères de recherche d'emploi ? Que pensez-vous de ce qui se dit de notre génération au travail ? Dites-nous tout, le pouvoir est entre vos mains. On a pu voir avec Chloé dans la première partie de l'émission le contexte dans lequel la génération est née. Moi, je vous propose, à vous qui nous écoutez, de vous parler de ce que j'ai trouvé sur le net concernant notre génération au travail. Et croyez-moi, cela vaut le coup d'œil, ou dois-je dire, le coup d'oreille.
Oula, merci pour cette petite boutade.
Oui, bon les filles, je suis pas la plus comique du groupe, mais bon, bref. Vous l'avez compris, je parle évidemment de tous les stéréotypes qui circulent sur notre génération concernant nos attentes au travail. I'm sexy and I know it. Eh bien oui, il semblerait qu'on ait la sex-attitude. On parle beaucoup de nous sur les réseaux sociaux, sur internet. Et du coup, après quelques recherches, j'ai pris en compte plusieurs sources différentes par des marketeurs, des patrons eux-mêmes ou des coachs spécialistes du management de génération, comme Christine Charlottin. Et j'ai pu voir donc l'image diffusée par les médias. La génération Y est considérée comme des individus généreux, méchants et infidèles, qui sont sans ancrage, sans projet à long terme et qui aussi sont davantage tournés vers leur vie privée, les loisirs et surtout moins engagés que leurs aînés au travail. J'ai d'ailleurs même vu que sur certains sites comme Elle Magazine, on parle de nous comme des extraterrestres dans l'entreprise. Et je cite, cela m'a fait bien rire, des anguilles difficiles à cerner, à motiver et à cadrer.
Toujours des petits compliments, hein, ça fait plaisir.
Effectivement, Chloé, ça fait plaisir. Donc moi-même, faisant partie de la génération Y, j'ai un peu été choquée et amusée par ces propos. J'ai donc cherché à voir s'il existait des études concrètes sur ces stéréotypes, finalement.
Ah bah ça, je veux bien te croire. Hein. Enfin, moi aussi, ça me choque vraiment. Et puis bon, voilà, quoi, on est toujours stigmatisés comme ça. Enfin bon, bref. Mais c'est vrai que moi, j'ai parmi toutes ces études là qui fleurissent, que ce soit sur Internet, dans la presse, etc., il y en a une particulièrement qui a retenu mon attention, c'est celle de Laurent Giraud, qui a déclaré qu'à ce jour, rien n'est démontré, mais qu'en revanche, il existe, voilà, dans la revue scientifique Journal of Organizational Behavior, et là, merci Laurie, je me suis imprégnée de ton accent anglais du début d'émission, paru en février 2014, donc c'est quelque chose quand même qui est très récent, et qui rassemble voilà, tous les travaux internationaux menés jusqu'à aujourd'hui sur ce lien entre appartenance générationnelle et attitude au travail.
Effectivement, Chloé, donc qu'est-ce qu'il en ressort de cette fameuse étude ? Donc il en ressort que les différences intergénérationnelles ne peuvent pas être établies de manière rigoureuse, on vous rassure. Seules se dégagent quelques suppositions qui restent à vérifier. Un individualisme grandissant au fil des générations, moins d'engagement vers l'entreprise, une préoccupation accrue accordée à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et des attentes plus élevées en termes d'avancement. Vous vous doutez les filles que je suis partie enquêter sur le terrain pour vérifier tout ça. Je vous propose d'écouter une des premières réactions sur l'équilibre de la vie privée et la vie professionnelle.
Je pense qu'il faut dès le départ séparer les deux parce que si on commence à mélanger vie professionnelle et vie privée, je pense qu'on est vite submergé et on n'a plus de repères en fait.
Ouais, je crois que c'est très important car aux États-Unis, tout est mélangé, c'est trop compliqué en fait.
Je pense que c'est important aussi mais que ça devient à mon avis de plus en plus compliqué de réussir à faire cette séparation-là parce qu'on nous demande toujours un peu plus et je pense vraiment bien respecter sa vie personnelle et aussi celle de son conjoint, de ses enfants, ça devient actuellement un peu plus compliqué à mon avis qu'avant.
Moi je pars du principe que la vie professionnelle influence vachement la vie privée, c'est-à-dire que moi, pour moi, mon travail il prendra la majeure partie de mon temps et de ma vie, et j'ai envie que ce soit quelque chose qui me passionne, donc moi ça influence un peu ma vie privée, parce que c'est-à-dire que si je suis pas bien dans mon travail, je serai pas bien dans ma vie privée. C'est une espèce d'équation, c'est quelque chose qui va ensemble et qui va de pair pour moi.
Moi j'aimerais aussi combiner la vie privée et la vie professionnelle. Si je peux travailler à la maison, être à la famille, ça me plairait.
Je pense que si j'avais un travail qui était vraiment déconnecté du reste de ma vie, j'aurais le sentiment de faire ce travail de manière purement utilitaire et que ce serait quelque chose qui n'aurait pas de rapport avec ce que je suis moi en tant que personne. Et du coup, j'aurais le sentiment en fait de sacrifier une partie de mon temps à quelque chose qui n'est pas moi finalement.
Donc Chloé, ben, on a pu voir que les avis divergent énormément sur la séparation de la vie professionnelle et la vie privée. J'ai aussi choisi de leur poser d'autres questions qui revenaient également souvent comme critères de sélection d'emploi, comme par exemple celui d'avoir une hiérarchie, puisque d'après notre ami Le Net, ce critère serait primordial pour nous. Alors qu'est-ce qu'il en revient ? Il en revient que les avis sont partagés une fois de plus sur la question, que là où certains pensent que c'est nécessaire pour un premier emploi, que cela aide à cadrer l'équipe finalement et la motiver, d'autres pensent au contraire que cela peut bloquer carrément la créativité et qu'il faudrait finalement avoir une hiérarchie idéalement horizontale et pas verticale où tout le monde serait sur le même pied d'égalité.
Ah bah ça évidemment ce serait vraiment l'idéal.
Exactement, l'idéal. Pour en revenir à un idéal, je leur ai également parlé du CDI.
Le fameux,
le Saint Graal. Donc il en ressort également que tout le monde souhaite avoir un CDI. En revanche, contrairement à ce qui est dit sur le net, certains souhaiteraient avoir un CDD en premier lieu pour se faire une expérience professionnelle. Le but étant d'avoir un CDI...
À terme, mais
à
d'abord terme. Voilà, accumuler des petites expériences.
Exactement.
Bah, c'est vrai que finalement, ça peut être également une bonne solution. C'est vrai que bon, quand on sort de nos études, on n'a pas forcément énormément d'expérience dans le milieu professionnel. Donc c'est vrai que moi, je comprends que ce soit finalement de plus en plus répandu et que le CDI commence à passer un petit peu au second plan.
Merci Chloé pour cette réaction. J'ai également parlé d'une enquête qui me tenait à cœur, qui a été faite par le Pôle emploi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler.
Oui, Laura, moi j'en ai entendu parler. C'est l'étude qui dit qu'on est une génération zapping, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement, c'est ça, Lucille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une génération zapping ? Alors, d'après les critères, ce serait une génération, finalement, qui, dès lors qu'elle a un problème dans le travail, eh ben, elle va tout simplement en changer. Donc, je vous propose d'écouter la réaction de nos auditeurs sur cette génération zapping.
Sur le plan professionnel, moi personnellement, je me reconnais pas spontanément dans cette attitude du zapping.
Moi, je trouve que c'est vraiment mal juger les jeunes d'aujourd'hui que de dire qu'on est une génération zapping, parce que moi, autour de moi, pour l'instant, moi, je suis en études de droit, donc j'ai pas encore ce rapport-là avec le travail salarié, mais j'ai beaucoup d'amis qui galèrent à trouver des jobs, qui font vachement de jobs en intérim et qui ils tiennent à ces jobs pour gagner leur vie quoi tous les mois et ils zappent pas les boulots comme ça justement et je trouve justement par rapport à mes amis que ça n'existe pas cette génération zapping.
Oui, je suis d'accord. On dit ça trop vite que nous sommes une génération de zapping. C'est juste un mot populaire mais c'est un peu facile de dire ou pas très nuancé.
Oui, je suis assez d'accord parce que je pense qu'on est une génération aussi qui est ambitieuse, qui veut évoluer rapidement. Et je pense qu'à partir du moment où une entreprise ne peut pas nous proposer ça, ben forcément, oui, on en change. Oui,
je suis d'accord. En fait, c'est aussi le résultat d'une crise économique. C'est le monde qu'on habite maintenant. C'est la réalité.
Les outils font aussi que maintenant, on change de plus en plus, que ce soit quand on achète un portable ou deux vêtements, une paire de chaussures. Et au final, on applique ça aussi dans le domaine professionnel.
Alors les filles, puisqu'on fait aussi partie de la génération Y, je tenais à vous demander votre avis, puisqu'ici les avis sont clairement partagés. Qu'en pensez-vous ?
Alors moi j'ai trouvé les avis très intéressants, surtout qu'à la base je m'étais un peu dit aussi, ben dis donc c'est un peu vite dit de dire génération zapping, mais en entendant les avis je suis assez d'accord en fait qu'on est une génération qui aime bien évoluer peut-être rapidement et qui, à cause de la crise économique, on est parfois obligé de changer de travail plus vite qu'une autre.
Oui, moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, dans le sens où personnellement, si j'ai pas ce qui me satisfait dans un emploi, je pense que je vais en changer en fait. J'ai un peu un objectif, je sais un peu ce que j'ai dans le cadre dans lequel j'ai envie de travailler, ce que j'ai envie de faire, et je pense que on a fait 5 ans d'études quand même. Donc si on me propose quelque chose qui n'est pas forcément tout de suite satisfaisant, je vais le prendre parce que j'ai quand même besoin d'argent, il faut être réaliste. Mais je ne vais pas forcément rester, quoi. Je ne resterai pas, si je trouve quelque chose de plus intéressant, je ne me dirai pas « Oh bah non, ils m'ont offert ma première chance, donc je vais rester ici. »
Moi, je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait d'accord en fait, avec vous. Je pense que j'aime bien aussi quand même la stabilité, tout ça. Bon, après, de là à prendre un boulot où vraiment ça se passe mal et où j'apprécie pas ce que je fais, peut-être pas. Mais franchement, si on me propose un CDI dès la sortie de mon stage, à la fin de mon stage de fin d'études, franchement, je ne pense pas que je refuserai, à moins que vraiment ça se passe très très mal dans la structure où je suis. Et voilà. Je pense que j'aime bien avoir la stabilité du coup.
Après, je pense que ça dépend vraiment de l'opportunité, de l'affinité qu'on a avec le poste proposé. Enfin, je pense qu'il y a de toute façon, dans tous les cas, il y a plein de critères qui entrent en jeu. Et que c'est vrai que le CDI, c'est un gage de sécurité. Maintenant, après, l'accepter pour dire j'ai un emploi, j'ai quelque chose... je sais pas. Je pense que ça s'appréhende quand même dans une certaine mesure.
Oui.
Je vous remercie les filles pour vos témoignages. Je pense qu'on est toutes d'accord pour dire qu'on a beau faire partie de la même génération, nos avis peuvent diverger quant aux stéréotypes qui circulent sur nous. Et donc, il faut prendre de la distance sur ces fameux stéréotypes pour ne pas tomber dans le préjugé. Le risque, c'est de tomber dans la stigmatisation finalement de l'autre. Par exemple, un patron qui tomberait sur l'article « Comment manager la génération Y ?», vous le trouverez facilement sur le net. Et si le patron prend cet article au pied de la lettre ou prend des décisions en fonction des stéréotypes qu'il a pu trouver sur cette page, il tomberait donc dans le préjugé et cela pourrait être nuisible pour la personne qui vient d'être embauchée de la génération Y. Une dernière chose importante à dire, c'est que le concept d'appartenance générationnelle doit être manié avec prudence. L'effet génération est à différencier de celui de l'âge ou celui de la période.
Merci beaucoup Laura pour toutes ces infos et puis aussi pour tous tes bons conseils, parce que c'est vrai que on a vraiment facilement tendance parfois à tomber dans le cliché, dans le stigmate. Donc vraiment faites attention quand vous entendez quelque chose, que vous voyez une info, que ce soit sur le net, dans la presse. C'est pas parce que c'est écrit par un journaliste que c'est forcément vrai, donc vraiment nous on est vraiment là pour vous alerter là-dessus. Alors maintenant, c'est vrai que au-delà de toutes ces idées reçues qui sont quand même particulièrement peu engageantes pour la génération Y que nous sommes, je pense qu'on est un petit peu quand même en mesure de se demander finalement qu'est-ce qu'on a à apporter si on a tant de tard que ça. Enfin, c'est comme si on était un peu les boulets de la société, comme si on n'avait vraiment aucune chance d'être recruté par un employeur potentiel. Donc je vous propose dans cette dernière partie d'émission de terminer justement sur une note un petit peu plus positive. Donc Lucille, vraiment là je compte sur toi, remonte-nous un peu le moral parce que nous Y et alors Z qui nous suivent, je pense que là on est un peu en panique, on se dit mais mon Dieu, comment on va faire pour trouver du boulot quoi, c'est pas possible.
Alors, vous l'avez vu, ou devrais-je plutôt dire, vous l'avez entendu avec Laura, il y a effectivement de nombreux stéréotypes qui circulent dans les médias autour de la génération Y au travail. Alors, tu vois, Chloé, moi, je me suis demandé, est-ce que cette génération, elle peut tout de même apprendre aux autres certaines choses ? Enfin, même des petits trucs, quoi.
On l'espère, quand même.
Et du coup, pour répondre à cette question, je suis allée voir Eva Ravier-Morel. Je ne sais pas si tu la connais.
Alors oui, d'ailleurs, Eva, donc je pense que peut-être que vous la connaissez, les filles, je ne sais pas, mais en tout cas, sur le campus, il y a des chances, puisque Eva est infirmière à l'espace santé de Pessac, et elle travaille régulièrement sur des projets avec des jeunes. Donc on lui a posé la question, et on a essayé de savoir si, elle, justement, elle avait appris des choses auprès de cette génération. Et je vous propose d'écouter ce qu'elle nous a répondu.
On apprend toujours avec les autres. Et parce que moi, je pense que chaque personne a un potentiel important et qui est à connaître, qui est intéressant. Arrivé à mon âge, j'ai quand même une expérience qui n'est pas négligeable. Mais on apprend même au contact de ceux qui en ont moins. On donne beaucoup, on reçoit beaucoup. En fait, c'est un échange perpétuel. Le fait qu'il y ait des jeunes, des moins jeunes, c'est un mélange de culture, de savoir, de connaissances.
Alors du coup, la question que moi je me pose, c'est est-ce que notre génération, elle pose plus problème que d'autres au final ?
Oui, Chloé, écoute, je lui ai posé cette question sur les difficultés qu'elle a pu rencontrer en travaillant justement avec la génération Y. Voici ses réponses.
Ben, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes méthodes, mais on se rejoint. Je trouve que dans chaque personne, il y a une richesse. Il faut savoir la trouver. Il y a des moments, ça a été plus difficile. Il y a tout un contexte qui fait que c'est plus difficile. Mais c'est possible de travailler ensemble. C'est pas une question d'âge, c'est une question de plus de caractère, de façon de penser, de voir les choses. De toute façon, il faudra bien s'y faire parce que plus le temps va passer, plus les gens, malheureusement, travailleront tard.
Alors, merci beaucoup Eva. Et c'est vrai que, comme elle l'a dit, on est de plus en plus amené à travailler avec des générations différentes de la nôtre dans nos lieux de travail. Et oui, hélas, le départ à la retraite se fait de plus en plus tard. Et en plus, certains retraités décident parfois de revenir travailler.
Donc en gros, tu veux dire que certains retraités, en quelque sorte, vont mettre leur retraite en mode pause et puis ils vont se dire, voilà, je la reprendrai plus tard, quoi.
Exactement, Chloé. Et en 2013, on comptait environ 500 000 retraités qui retournaient au bureau. Alors parfois, ces différences de génération, ça peut créer effectivement des petites incompréhensions dans les lieux de travail. Et aussi parfois, certaines tensions. Donc la solution qui vient et qui revient sur le web, c'est communiquer de façon constructive et ne pas stigmatiser l'autre.
Alors ça, toujours plus facile à dire qu'à faire.
Hein. Exactement, on est bien d'accord, c'est une très belle phrase. Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Comme l'a très bien dit Bernard Weber, la communication, c'est pas toujours évident. Et alors là, accrochez-vous parce qu'il a dit, donc entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre.
Ah, je te le dis direct, moi Lucille, c'est bon, tu m'as perdu là, hein, dans ta citation.
Oui, c'est vrai. Mais bon, nous, on a quand même eu envie d'essayer de communiquer. Donc, on est allé à la rencontre de Marina Belloin-Volant, coach en communication, pour lui demander quelques pistes. Je vous laisse l'écouter. Bonjour Marina, merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Campus aujourd'hui. Auriez-vous des conseils à donner à nos auditeurs qui travaillent au quotidien avec des personnes d'une autre génération ou tout simplement avec des personnes d'autres profils?
La première chose, ce serait effectivement de se mettre en écoute active avec l'autre pour vraiment connecter à l'autre. La deuxième idée assez importante pour pouvoir faire ça, c'est de savoir être ouvert aux autres. Si on est capable d'accueillir la différence de l'autre, si on est capable d'accueillir sa particularité, ses connaissances, son expérience que nous, on n'a pas, on est plus facilement en connexion avec l'autre. Et pour arriver à faire ça, c'est-à-dire que le troisième point, c'est d'apprendre à bien se connaître. Bien connaître l'autre, il faut commencer par bien se connaître soi-même. Il faut savoir quel est son carburant, quel est son moteur, avoir un petit peu confiance en soi, être bien ouvert à ce que l'autre a à nous proposer. On peut échanger d'égal à égal, j'ai envie de dire, avec son interlocuteur de toute génération, de toute origine, de tout secteur. Ensuite, il faut savoir être assertif. Alors quand on dit assertif, c'est avoir cette capacité à entrer en communication avec l'autre en osant poser les mots sur ce qui nous convient à nous, ce qui ne nous convient pas à nous et de quoi nous avons besoin pour mieux fonctionner dans sa communication avec l'autre. C'est un exercice de longue durée, on n'y arrive pas forcément toujours. L'autre petit conseil que je pourrais donner, c'est de savoir rayonner. C'est bien connu, tous les profs vous le disent certainement, moi je vous l'ai dit, 80% de notre communication passe par le non-verbal. Donc notre corps parle pour nous. Donc réussir à entrer en communication avec l'autre, qui qu'il soit, c'est de réussir à être connecté à l'autre, mais par le corps aussi. Le regarder, lui sourire, même par le téléphone. Quand on sourit au téléphone, on est beaucoup plus accueillant que quand on ne sourit pas. Voilà, donc j'ai envie d'utiliser ce mot aussi, de rayonner, pour entrer en communication avec l'autre. Pour recevoir de l'autre et réussir à travailler avec l'autre, à collaborer avec l'autre, il faut donner, apprendre à donner pour recevoir. Moi, j'ai envie de dire qu'une bonne communication, une bonne relation avec l'autre, c'est surtout réussir à être authentique. Si on a envie d'être dans l'instant, qu'on a envie de dire des choses vraies, des choses qui nous ressemblent. Pour finir, une relation réussie et une communication réussie entre deux personnes ou un groupe de personnes, c'est qu'à la fin de ce temps-là et de ce moment partagé ensemble, chacun reparte avec un petit truc en plus.
Et alors, je pense qu'entre savoir écouter, savoir se connaître, savoir être assertif, se dire et en même temps laisser l'autre se dire, je pense qu'il y a beaucoup de très très bons conseils à utiliser à la fois au travail mais aussi dans toute relation personnelle. Donc encore une fois, merci beaucoup Marina.
Oui, merci beaucoup Marina d'avoir accepté d'intervenir et de témoigner sur notre émission. Mais alors du coup Lucille, est-ce que tu as aussi pensé à aller voir du côté des chercheurs?
Oui, tout à fait. Et du coup, on a découvert que travailler au contact de différentes générations, eh bien c'est clairement devenu ces dernières années un sujet très très populaire. Donc on voit fleurir des livres pour faire face au choc des générations au travail. On voit aussi apparaître des formations RH sur les diverses générations.
Ça rigole pas, hein.
Alors par contre, à noter, ces formations, on en a qui sont de très bonne qualité. Et puis hélas, il y en a d'autres qui renforcent les stéréotypes.
Ah mais ça, forcément, on ne peut pas y échapper. Hein.
On observe aussi de nouvelles formes de transmission des savoirs dans certaines entreprises, notamment des formations où ce sont en fait les jeunes qui vont enseigner aux plus anciens. Et là, vraiment, du coup, on a un inversement des rôles au niveau de la hiérarchie traditionnelle.
Ouais, mais je trouve ça vraiment beau, justement, ça change du schéma classique et au moins on voit que enfin on peut apporter quelque chose, quoi.
Tout à fait, et c'est vraiment d'abord basé sur l'échange au final. Donc au cœur de toutes ces recherches, il y a aussi une nouvelle discipline qui est apparue. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les filles, ça s'appelle le management intergénérationnel.
Moi, ça ne me dit rien personnellement.
Alors en fait, c'est une discipline pour former les managers qui ont des équipes intergénées. Donc cette discipline, elle est en plein essor et en fait, elle se base vraiment sur tout ce qu'on a dit un peu au long de cette émission de l'importance de dépasser les stéréotypes. Tout simplement parce qu'ils ont constaté que bien souvent, les stéréotypes, ils peuvent freiner à la coopération intergénérationnelle et surtout à la performance de l'entreprise.
À bon entendeur, hein. Merci beaucoup, Lucille. Alors pour conclure, je pense que bon, on est toutes unanimes pour dire que finalement, voilà, au-delà des stigmates, de toutes ces idées reçues que l'on associe à la soi-disant génération Y dont on fait partie, hein, il s'agit plus de stigmates qui vont être liés à un cycle de vie bien spécifique qui est celui de la jeunesse. Alors bon, si on remonte un petit peu dans le temps, hein, déjà dans les ruines de Babylone, puis à la période de Socrate, Platon ou Aristote, la jeunesse suscitait déjà hein, l'incompréhension, le doute, voire la prévention. Et ça, on le voit bien parfois au niveau des écarts voilà, entre les générations. Sans compter que les plus âgés des Y, qui approchent à grands pas de la trentaine et qui l'ont peut-être même déjà dépassé, commencent à renvoyer la balle à la génération Z qui les suit, et à leur assigner les stéréotypes et également voilà, toutes les idées reçues, les clichés qu'on a pu entendre, nous, à notre sujet. Donc je pense que là, on peut vraiment parler d'une transmission entre les générations. Alors bon, je ne peux pas vraiment dire que ce soit très positif, hein, mais en fait, voilà, clairement, c'est un petit peu le cercle vicieux du renouvellement générationnel. On va avoir un réflexe classique visant à penser que voilà, nouvelle génération, c'est finalement forcément synonyme de nouveauté, d'incompréhension. Et voilà, c'est le fait de ne pas connaître qui fait peur. Et quand on a peur, ben voilà, on essaye de rejeter sa peur en créant des stigmates, des idées reçues, et on se cache un petit peu derrière ça, alors que la réalité est bien loin de ses a priori. Faut bien penser que notre société elle est en mutation permanente et qu'il faut s'adapter à l'évolution. Donc notamment, on l'a vu avec les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui se renouvelle sans cesse et qui n'est pas propre d'une génération à une autre. Et puis voilà, je le redis, il ne faut pas que les Y ou même les Z se sentent stigmatisés. C'est vrai que c'est le mot qui est revenu le plus au cours de cette émission, mais... voilà, c'est vraiment le fait d'un cycle de vie, c'est les jeunes qui sont catalogués tout de suite, voilà, il faut bien avoir quelque chose à reprocher. Donc je pense que voilà, on pourra pas y échapper, quelle que soit la génération à laquelle on appartient, à laquelle nos enfants appartiendront, on aura forcément des clichés, des stigmates qui seront rattachés à celle-ci. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu le mot de la fin, donc... Ça y est, notre première émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie forcément mes super chroniqueuses pour tout le travail qu'elles ont effectué. Tous les gens qui ont accepté aussi de participer à cette première et qui ont bien voulu témoigner pour nous et puis pour faire avancer la recherche. Quand même, il faut le dire. Alors les filles, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Comment vous vous sentez maintenant qu'on arrive un petit peu à la clôture de l'émission?
Ah bah ça va mieux quand même, hein. Ah,
tu te sens soulagée?
Bah écoute, à quand la prochaine, j'ai envie de dire.
Le plus tôt sera le mieux.
C'est parti.
Bah écoutez, en tout cas, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas une fois encore à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook d'On va se gêner, sur le compte Twitter. Et puis dites-nous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, des petits mots d'amour. Ça nous fera toujours plaisir. Et puis les filles, je vous dis à la prochaine. À bientôt.
Merci.
On va se gêner sur Radio Campus Bordeaux 88.1, 14h, 15h. Alors cliché ou réalité ?